Culture et société. Politique. Et même du sport. Ouais. Du lundi au jeudi. Ouais. Le pédalo. La quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Ça y est, première semaine de la rentrée scolaire qui se termine doucement. Alors pour l'occasion, nous accueillons dans les studios Madame Caroline Fell, adjointe de l'asile d'Angers à l'éducation. Cours des fournitures scolaires, prix de la cantine, AESH, laïcité. On parlera avec elle de la situation des écoles primaires et maternelles à Angers. En deuxième partie d'émission, nous irons faire un tour du côté de la FRAP et de nos voisins de la CORLAB, la coordination des radios associatives de Bretagne. Cet été, nous vous faisons découvrir les lauréats des Bravos. Les Bravos, ce sont des trophées imaginés pour valoriser les engagements des festivals dans les transitions écologiques et sociales. Aujourd'hui, rencontre avec le Festival des Transmusicales de Rennes. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Mais Caroline Fell n'est toujours pas arrivée dans les studios, donc on va se laisser en musique avec un petit quiz musical. Peut-être arriverez-vous à deviner quel est ce morceau, ce tube repris par le pianiste Baptiste Trottignon, version jazzy. On se laisse en musique en attendant Caroline Fell. Message in a Bottle, évidemment, vous aurez reconnu Message in a Bottle sur les ondes de Radio Campus Angers. Caroline Fell est arrivée, je vous propose qu'on commence cette interview.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Alors que la première semaine de classe se termine, que les coiffeurs ont bien coiffé, que les fournitures scolaires ont vidé les portefeuilles, que le rythme intense de la rentrée a repris, nous accueillons dans les studios Madame Caroline Fell, bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir. Vous êtes adjointe à l'éducation à la ville d'Angers et nous allons revenir ensemble sur les enjeux autour de cette rentrée scolaire pour l'année 2023-2024. Comme tout le monde, Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation nationale, a fait sa rentrée ces dernières semaines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette rentrée a été tonitruante. Gabriel Attal et le président de la République Emmanuel Macron ont placé la rentrée des classes sous le signe de la laïcité en insistant sur la lutte contre le port du camis et de la baïa, des vêtements traditionnels portés dans les pays arabes. Est-ce que, selon vous, l'interdiction de l'abaya et du camis est une priorité à traiter également dans le Maine-et-Loire ?
Alors, je pense que la problématique, éventuellement, si elle existe dans le Maine-et-Loire, ça va être au niveau du collège. C'est vraiment des sujets qu'on n'a pas du tout à l'échelle d'une ville sur les questions, enfin, dans les écoles primaires. Est-ce que c'est une priorité ? Je pense que la laïcité, elle doit être défendue. Est-ce que c'est le meilleur moyen ? J'en suis pas forcément certaine. Est-ce que c'est un sujet ? Je pense que oui. Parce que vous avez évoqué dans votre introduction le fait que c'était une tenue traditionnelle, portée, etc. C'est pas forcément une tenue traditionnelle. Si vous regardez les pays du Maghreb, c'est pas des tenues qui étaient forcément portées. C'est comme la question du voile. Il y a toute une dimension de j'allais dire, de mode et de choses qui se font dans les pays occidentaux par des gens qui ont envie de porter des projets. Après, est-ce que les filles qui portent une abaya au collège, elles ont tout ce projet politique derrière ? Je pense vraiment pas. Et je pense qu'il faut accompagner, expliquer. Et c'est pour ça que je suis intimement convaincue que la laïcité, elle commence à s'apprendre et à se comprendre, et à se vivre, surtout, eh ben, dès l'école, dès la maternelle, dès le primaire. Et nous, c'est le boulot qu'on fait à Angers.
Selon vous, est-ce que il y a des sujets plus importants que l'interdiction de l'abaya et du camis ? Parce que c'est vrai que ça a un peu saturé l'actualité, notamment l'actualité de cette rentrée scolaire. Je ne sais pas, par exemple, le coût de la rentrée scolaire, le manque de personnel, la rénovation des locaux et j'en passe.
Ah bah, les moyens mis dans l'éducation en général, oui. Parce que est-ce que l'éducation, c'est la mère de toutes les batailles ? Ouais, je le pense, vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, on a assez de moyens pour financer tout ce qu'on aimerait faire ? Non. Est-ce que c'est des choix qu'on a fait, par exemple, à Angers, notamment pour les écoles primaires ? Bah, c'est clair que oui. Aujourd'hui, on a recruté 60 ATSEM l'année dernière pour mettre une ATSEM dans chaque classe de maternelle à côté de l'enseignante. On a titularisé une centaine d'animateurs et aujourd'hui, on a 450 animateurs qui sont présents tous les jours dans les écoles de la ville d'Angers. Ça coûte 3,5 millions par an de ressources humaines, enfin de salaires qu'on paye aux gens. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on est intimement convaincu que c'est en ayant plus d'adultes présents aux côtés des enfants qu'on pourra faire partager un certain nombre de valeurs, et notamment les valeurs républicaines, bien sûr.
Vous parlez du recrutement des nouveaux personnels et de cette centaine, notamment d'animateurs. En ce moment, ce dont on parle beaucoup, c'est le manque d'enseignants. Est-ce que vous pourriez nous faire un point sur la situation à Angers et dans le Maine-et-Loire ?
Alors, dans le Maine-et-Loire, je ne peux pas vous répondre. À Angers, ça va. À Angers, on a toutes les classes, on a eu un équilibre entre fermeture et ouverture, et il y a a priori des enseignants sur tous les postes. On fait clairement pas partie des territoires en difficulté. De ce côté-là, je remercie effectivement le dialogue qu'on peut avoir avec l'éducation nationale. Mais je sais qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus difficile, et si on parle de certains départements comme par exemple la Seine-Saint-Denis, j'y ai des amis, élus, parents, et je sais que dans certains cas, un enseignant devant chaque classe, c'est pas une réalité.
Est-ce que ça facilite le dialogue avec l'éducation nationale d'avoir le premier adjoint au maire Christophe Béchu qui est membre du gouvernement ?
De toute façon, on a toujours parlé avec l'éducation nationale localement. On n'a pas besoin d'un ministre.
Angers compte très précisément 467 classes, si je ne me trompe pas. Et pour cette rentrée, vous aviez dit que voilà, il n'y a pas de suppression de classes. 12 ont été ouvertes et 16 fermées, dont, et je cite mes confrères de Ouest France et Angers Info, 16 fermées, dont 8 au titre des dédoublements des réseaux d'éducation prioritaire. Alors, c'est vrai que instinctivement, quand on entend dédoublement des REP, moi j'ai plus tendance à imaginer des ouvertures de classes, mais alors là, pas du tout, des classes fermes au titre des dédoublements de classe. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer ?
C'est un peu, j'allais dire, l'organisation interne de l'éducation nationale, mais la vérité, c'est que ça veut dire un enseignant pour 12 élèves. Et ça, c'est un grand mieux. Vraiment, dans les zones d'éducation prioritaire, les réseaux d'éducation prioritaire, c'est des endroits où on sait que les enfants, ils vont avoir peut-être moins de soutien familial, moins de facilités complémentaires pour accéder à plein de choses. Donc c'est des réseaux où les classes sont en plus petits effectifs, de manière à notamment ce qui rentre plus facilement dans tout ce qui est lecture et écriture.
Et donc les 8 classes fermées au titre de ces dédoublements, qu'est-ce que ça veut dire ?
Dans certains cas, en fait, ça correspond à des classes qui ont fermé, mais dans des zones où, de toute façon, c'était qualifié de REP, parce que ça correspond au quartier politique de la ville, mais ça n'était pas... c'est des écoles dont les effectifs baissent. Donc il n'y a pas moins de moyens. Si la question c'est est-ce qu'il y a moins de moyens, la réponse est non.
D'accord. Par contre, il y a moins d'élèves.
Il peut y avoir moins d'élèves parce qu'on va être dans un quartier où la population globale scolaire baisse. Puis on a des quartiers où, au contraire, ça augmente beaucoup. On était lundi avec le maire pour la rentrée dans deux écoles qui sont sur les Hauts-de-Saint-Aubin, Gérard Philippe et Nelson Mandela. Et on voit bien que là, c'est des quartiers qui se construisent, où les familles, elles arrivent, et on a une grosse, grosse pression.
La rentrée est également marquée par l'inflation qui se retrouve partout et notamment dans les prix de la cantine. La nouvelle grille tarifaire n'a pas fait que des heureux et des heureuses. La Fédération des parents d'élèves, la FCPE, a demandé une révision des tarifs. Les élus de l'opposition ont voté contre cette nouvelle grille qu'elle estime comme non équitable, notamment pour les classes moyennes. Pour l'instant, l'évolution des grilles n'est pas à l'ordre du jour, malgré le fait que vous fassiez porter sur les classes moyennes le coût de ces évolutions.
Alors, vous avez repris le communiqué de l'opposition, c'est bien, mais c'est un peu incomplet.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Tout à fait. L'augmentation, coût des matières premières, augmentation de l'énergie, ça représente une augmentation entre 15 et 18% sur la réalité du coût de fabrication des repas. On a limité cette augmentation à 3,5%, la répercussion qu'on en fait vis-à-vis des familles. Ensuite, le changement en fait de grille tarifaire, c'est pas une augmentation qu'on ferait porter plus ou moins. C'est qu'on a changé un système où en fait avant vous aviez un tarif qui était légèrement plus élevé, mais qui prenait en compte théoriquement 11 jours d'absence de chaque enfant. Sauf que les parents, ils oubliaient que dans le tarif qu'ils payent, il y avait ce forfait entre guillemets qui était précalculé. Donc quand il y avait des grèves ou des enfants malades, ils venaient après, ils se plaignaient auprès de Papillote et compagnie, qui est la société de restauration collective, en disant mais je comprends pas pourquoi je paye. Donc maintenant, ça va être simple. Les jours de présence des enfants seront les jours payés, point. Et c'est là-dessus qu'on a eu tout un débat en conseil municipal avec l'opposition, qui dit « Non, mais regardez, ça va faire des augmentations colossales. » C'est pas vrai. Donc moi, j'invite les familles à attendre leur première facturation, et elles vont être rassurées, elles vont voir que l'augmentation... Alors, clairement, l'effort que vous évoquez, les tarifs vont baisser pour les quotients familiaux les plus bas, ils vont rester au même niveau pour les quotients familiaux bas, les quotients familiaux médians et supérieurs vont avoir une très légère augmentation, mais dans la limite des 3,5 que j'évoquais. Donc on reste à avoir des tarifs hyper sociaux, entre guillemets, en G. Je vous rappelle que le prix de revient de fabrication d'un repas, c'est aux alentours de 6 euros. Le tarif le plus élevé à Angers, c'est 5,80 euros pour les quotients familiaux les plus forts. Et le tarif de début de tarification à la cantine, c'est 80 centimes. Donc il y a des familles, clairement, 80 centimes, il n'y a pas une famille qui peut faire à manger à ses enfants pour ce prix-là chez soi. Donc c'est moins cher de manger à la cantine.
Donc vous, l'augmentation du coût des repas, c'est maximum 3% d'augmentation.
Je crois que c'est 3,5, oui.
C'est 3,5. Parce que c'est vrai que là, il y a eu des témoignages qui ont été publiés dans les médias et notamment...
Des calculs qui ont été faits avant, parce que là, la tarification, elle change maintenant seulement. Donc, c'est les factures qui arriveront, qui commenceront
là,
à
là, les calculs parlent de 27,9% d'augmentation. Mais c'est potentiellement des calculs erronés.
C'est une projection, parce que justement, il va y avoir des absences, il va y avoir des jours qui ne seront pas consommés. Et on sait qu'à la fin, ça s'équilibrera.
On fera le bilan
avec
la FCPE. Pour la restauration, le prestataire avec lequel la mairie travaille est Papillote et compagnie, donc vous en parliez, et ils ont un engagement fort, notamment autour des menus végétariens. Rien que cette semaine, deux repas ont été complètement végétariens. Est-ce que vous sentez les élèves et leurs parents satisfaits de ces propositions 100% végétariennes?
Oui, il y a une demande, ça c'est certain. C'est clair que c'est aussi une évolution vers laquelle on veut aller. On ne peut pas parler de transition écologique si on ne prend pas en compte cette dimension alimentation et cette baisse de la quantité de viande. Après, aujourd'hui, les cantines scolaires et les établissements de restauration collective sont très très encadrés par des réglementations concernant le grammage de protéines, de vide. Enfin voilà, tout est extrêmement écrit. Et la seule difficulté des menus végétariens, et c'est pour ça qu'on essaye de les étendre, mais que ça demande beaucoup de travail en fait, de préparation en amont, c'est que ça représente des plus grosses quantités. Pour qu'un enfant il ait la même quantité de protéines végétales qu'animales, il faut qu'il mange plus, par exemple, des légumineuses, etc. Et donc c'est tout ce travail qui est fait sur les menus, les plats, la présentation, de manière à être sûr qu'ils soient bien consommés. Je rappelle qu'on a beaucoup bossé aussi sur la question de la lutte contre le gaspillage. La moyenne française, c'est 120 grammes de gaspillé. À Angers, on est en dessous de 80. Et on continue de vouloir descendre. On travaille là-dessus.
Donc malgré les menus végétariens, les élèves sont plutôt...
Ah mais ça, de toute façon, et puis il y a de toute façon la possibilité, c'est une éducation au palais, c'est aussi il y a des cultures familiales dans lesquelles si l'enfant revient en disant qu'il n'a pas mangé de viande à la cantine, les parents s'inquiètent. Donc il y a les deux demandes, on les voit très bien, il y a des parents qui nous disent oh là là, faut faire plus de menus végétariens parce que c'est très important, des parents qui sont déjà très impliqués, j'allais dire, dans une logique de transition énergétique, écologique, etc. Puis on a des parents qui sont sur des habitudes alimentaires au contraire très différentes et qui posent des questions, donc il faut répondre à tout le monde et accompagner cette évolution-là.
Est-ce qu'il y a une alternative végétarienne pour chaque repas carné?
En fait, à chaque repas, les enfants peuvent ne pas manger de viande. Après, s'ils prennent pas la viande, si leurs parents disent ils mangent jamais de viande à la cantine, c'est aux familles de rééquilibrer derrière. Mais il y a toujours la possibilité de ne pas manger
pas
de viande.
La viande qui sera par contre pas remplacée.
Non, mais il y aura plus de quantité plus de légumes. Quantité mais par légumes. Contre, ça ne sera pas compensé en termes de protéines, machin.
D'apport nutritionnel. On continue dans les actualités de la rentrée, puisque la minorité municipale a proposé dans un communiqué publié la semaine dernière que la ville mette en place la gratuité des fournitures scolaires. Est-ce que cette mesure vous semble pertinente pour permettre aux Angevins et aux Angevines de pouvoir résister à l'inflation ?
Mais en fait, j'aimerais rappeler à la minorité que la gratuité, elle existe déjà, puisque la ville finance chaque année autour...
À hauteur de 50 euros. Il propose de faire passer l'allocation à 70 euros.
Alors, en fait, c'est moins, le chiffre n'est pas exact, c'est 46 euros. Si on divise la subvention globale, qui est pratiquement de 500 000 euros, par le nombre d'enfants scolarisés, ça fait à peu près 46 euros. Et en fait, c'est pas versé aux parents, c'est versé aux écoles. Et les écoles achètent les fournitures scolaires. On a fait, le jour de la rentrée avec le maire, la tournée d'un certain nombre d'écoles. Les fournitures scolaires sont là. Les enseignants achètent les cahiers, les enseignants achètent les classeurs, les enseignants achètent les crayons, les enseignants achètent... Un enfant, on va lui demander de venir à l'école avec un cartable et une trousse. Et si dans certains cas, il y a des enseignants qui demandent, je sais pas quoi, un cahier 24-32, ceci, cela, en plus aux familles, c'est la liberté de l'enseignant. Mais la ville, entre guillemets, fournit déjà toutes les fournitures de base. Donc voilà, j'aimerais juste le rappeler parce que je sais que c'est un débat qui monte et il n'est pas justifié. Entre l'allocation de rentrée scolaire qui est versée directement à l'État aux familles qui sont les plus fragiles et qui doit justement financer cet achat du cartable, d'une tenue de rentrée, enfin voilà.
Voilà, c'est ça. L'allocation de rentrée scolaire a été revalorisée de 5,6% contre 10% d'augmentation du prix des fournitures scolaires.
Mais c'est pour ça que les fournitures scolaires, encore une fois, dans les écoles maternelles et primaires, enfin élémentaires de la ville d'Angers, elles sont fournies.
Angers, vous avez aussi annoncé à Angers le maintien des TAP, les temps d'activité périscolaire dans les écoles. Il y a eu une politique de recrutement de personnel pour assurer ces TAP l'année dernière. Il y avait vraiment un besoin de recrutement.
Ah oui, il y avait un besoin de recrutement et surtout objectif, c'est un objectif de stabilité. On veut stabiliser les équipes.
Parce qu'à la base, vous aviez laissé la gestion de ces TAP à des artistes et des personnes issues du monde associatif.
Oh là non, on n'a jamais laissé la gestion des TAP. On avait des partenaires.
Des partenaires qui pouvaient intervenir dans les écoles.
Qui pouvaient intervenir.
Et ça ne suffisait pas ?
Non, parce que ce qu'il fallait, c'était pour stabiliser les équipes. Je vous ai donné le chiffre tout à l'heure. C'est beaucoup, hein, 450 animateurs. On arrive à peine à recruter tellement, j'allais dire, on a épuisé le vivier. Donc c'est vraiment beaucoup de personnes. Et pour que les gens aient envie de rester et, j'allais dire, puissent le faire, il fallait qu'on les déprécarise. D'ailleurs, c'était une demande des syndicats, c'était une demande des animateurs et des animatrices eux-mêmes. Parce que un contrat à 27%, à 50%, même à 60 ou 75%, à part certains qui le souhaitent parce qu'ils avaient une activité à côté... c'était trop léger. Donc on est allé vers progressivement des contrats à temps plein et on a proposé la titularisation à une centaine d'agents. On en garde encore des contractuels hein, en complément. Puis il y a aussi des gens qui ne veulent pas. Je pense, vous évoquiez des artistes, on a des animateurs qui à côté peuvent avoir une activité, je sais pas, de circassien ou des trucs comme ça, qui peuvent équilibrer du coup leurs activités. Vous évoquiez la question des partenariats. Alors oui, il y a des associations qui intervenaient dans les écoles pour assurer un TAP sur une thématique donnée. Et pour le coup, on a réinternalisé ça. Mais par exemple, si je pense à au Fédé d'éducation populaire, que ce soit la FOL ou les Franca avec qui on travaillait beaucoup, on l'a fait dans le dialogue avec eux, parce que bien sûr, ça représente une baisse de leur subvention. Mais bon, notamment, je pense à une de ces deux fédés d'éducation populaire qui nous dit « on va pas vous reprocher d'avoir titularisé, puisque c'est ce que nous on demandait, donc on est cohérent politiquement ». Ça fait un peu suer sur la question du budget. Alors après, on a travaillé avec eux pour voir comment ils peuvent aussi intervenir en amont sur des temps de formation de nos animateurs, parce qu'on veut pas non plus les mettre en danger financièrement. C'est des partenaires avec lesquels on travaille très bien. Et voilà, donc on a cherché un point d'atterrissage. Mais l'idée, c'est on internalise. On a des agents qui sont là, qui sont stables, qui sont titulaires, qui connaissent les enfants, des équipes qui peuvent du coup bien mieux accompagner sur toute la partie soutien à la parentalité et soutien aux enfants tout simplement. Cette année, là, à la rentrée, on n'a que 10% de turnover. C'est la première année que ça arrive. On a 90% des animateurs, des animatrices et des ADSEM qui étaient là l'année dernière.
Est-ce que l'objectif, c'est aussi de commencer, pourquoi pas, à faire des passerelles entre ces temps d'activité périscolaire et le temps scolaire ? C'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il y a enfin la rencontre de ces deux mondes.
Ah ben, y en a, alors... Il y a déjà, dans beaucoup d'écoles où ça se passe vraiment très bien, il y a déjà des vraies articulations scolaires-périscolaires. Il y a par exemple des expérimentations sur des thématiques. Je pense à certains conseils d'élèves qui sont à la fois scolaires et périscolaires de manière hyper transversale. D'ailleurs, dans les écoles où le dialogue est fort entre les deux, ça marche très bien. Et à la fin de la journée, c'est les enfants qui en bénéficient. Donc ça existe. Et je suis très heureuse de ça parce que c'est vraiment cette idée d'un grand service public de l'éducation nationale qui rassemble tous les acteurs au service des enfants et des familles.
Cette année, ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, les temps d'activité périscolaire, c'est aussi l'occasion d'amener le sport, notamment toujours plus dans les écoles. On rentre donc dans cette année olympique. Comment est-ce que les écoles vont se saisir de ces questions et ces valeurs de l'olympisme ? Est-ce que vous avez donné des orientations particulières ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer au cours de l'année, des temps forts en rapport avec les JO ?
Alors, il va y avoir des temps forts. Il y a des actions, la plupart du temps à l'initiative, soit des équipes enseignantes, soit des équipes périscolaires, soit justement des deux ensemble, avec des partenariats aussi avec le service des sports, avec les clubs sportifs qui vont porter. Il y a déjà eu des activités qui ont été monté dans la perspective de la Coupe du Monde de rugby. Et là, ça va se poursuivre sur l'année 2024.
Vous avez donné une conférence de presse de rentrée la semaine dernière et Ouest France a publié donc un article après cette conférence de presse de rentrée et ils écrivent, je cite, « Stabilité est mère de sérénité, en tout cas pour Caroline Fell ». Bon, ça vous fait sourire. Est-ce que la stabilité est mère de sérénité ? Qu'est-ce que ça vous a fait... comment est-ce que ça vous a fait réagir cette phrase ?
Ça, je l'ai dite, alors je peux pas reprocher aux journalistes d'avoir écrit, au contraire. Non, mais j'insiste là-dessus, parce que on a connu des années compliquées. J'allais dire 2014-2020, ça a été la réinterrogation de l'organisation des rythmes scolaires. Et puis, à partir de 2017, ils étaient plus obligatoires, les 4 jours et demi. Mais pour autant... Les enseignants reconnaissent bien volontiers que la cinquième matinée de classe, c'est quand même un bénéfice, notamment pour les enfants les plus fragiles. Donc, ensuite, l'État a dit « bon, bah en fait, vous faites ce que vous voulez, bon, on continue à financer ». On a décidé qu'on restait là-dessus. Après, on s'est engagé, nous, dans cette réorganisation justement de la direction, avec cette idée de recruter, de stabiliser, de titulariser des agents, d'avoir vraiment des personnels stables et pas des étudiants qui viennent 2 heures le midi surveiller la cantine, parce que ça ne peut pas être le même niveau de professionnalisme que quelqu'un qui fait ça toute la journée, dont c'est le métier, qui connaît les enfants, et que les enfants connaissent, parce que c'est aussi ce rapport-là qui est important. Et donc, on était partis là-dedans, et puis il y a eu le Covid. Donc ça a été un ralentissement et une complication supplémentaire, avec, je le rappelle, les enseignants et les personnels périscolaires qui étaient en première ligne. Ils ont continué d'accueillir les enfants des soignants d'abord, et ensuite tous les enfants quand on a réouvert, dans des conditions avec les fameux protocoles sanitaires qui sortaient le dimanche soir pour le lundi matin. Enfin voilà, ça a été des moments vraiment difficiles. Et c'est pour ça que je dis là, sérénité, stabilité. On a, je vous le disais, 90% des personnels qui sont les mêmes que l'année dernière. On a seulement donc ces 10% de turnover, on a des équipes qui connaissent à la fois les enfants, les familles, qui connaissent les enseignants aussi avec qui ils vont travailler. Donc voilà, ça c'est d'un seul coup, on respire, il y a cette dimension
de
liberté.
Vous sentez vraiment de la sérénité dans les équipes ?
Ouais, je sens en tout cas pas le stress qu'il y a pu y avoir sur les autres années où à cette saison-ci, il fallait encore recruter 50 animateurs parce qu'il en manquait. Là, cette année, il en manque qu'une vingtaine, mais comme on a près de 40 remplaçants, cette vingtaine, elle est déjà de facto remplacée. On va pouvoir continuer de recruter sur le premier trimestre tranquillement, arriver en ayant des équipes complètes qui vont pas tourner à effectif réduit. Donc c'est plus calme pour tout le monde, c'est... Pour les animateurs, l'occasion de vraiment faire leur boulot, des activités construites avec des groupes d'une taille normale et pas être obligé de faire ce qu'on a fait quand on disposait pas du bon nombre de personnes, c'est-à-dire un taux d'encadrement qui est poussé à son max avec des enfants auxquels on peut consacrer moins de temps.
Selon vous, donc pour l'instant tout est stable, selon vous, quel est le chantier prioritaire de la ville d'Angers en matière d'éducation ? Est-ce que vous avez un plan d'action, un plan de bataille pour cette nouvelle saison scolaire 2023-2024 ?
Alors en fait, on a un plan de bataille 2020-2026 qui était dans notre programme pour les dernières municipales. Mais ce plan de bataille, année, il se décline. En fait, les priorités, elles sont simples. Il y a l'éducation à la citoyenneté. Et c'est une déclinaison dans le cadre de ce qu'on appelle la politique éducative locale, la PEL. J'aurai l'occasion d'en parler, je pense, au conseil municipal de septembre, de revenir en détail dessus. C'est ce qui, j'allais dire, anime et infuse toutes les actions qui sont mises en place justement par tous ces agents dont je parlais tout à l'heure, les animateurs, les animatrices, les ATSEM. Pour moi, le pilier central, c'est l'éducation à la citoyenneté. Vous avez ouvert sur cette question de l'abaya, de la laïcité, etc. très modestement dans les écoles, nous, on veut travailler sur le sentiment d'appartenance, sur le fait que les enfants comprennent qu'ils appartiennent à un collectif, leur école, au sein d'un collectif plus large, leur quartier, ça généralement ils l'identifient très bien, au sein d'un collectif plus large, leur ville. Et ça, ils l'identifient pas tous. Et ça, on le travaille beaucoup. Depuis l'année dernière, on a proposé à toutes les classes qui le souhaitent de s'inscrire pour des visites citoyennes de la ville. Alors, ils viennent, ils sont 2 heures à la mairie, et du coup, ils découvrent ce que c'est que la mairie, ils découvrent à quoi ça sert une mairie, et pourquoi on est là, et c'est quoi le lien entre la mairie et la République. Ah oui, mais d'accord, et les mariages, ils se font là, mais, ah, mais du coup, ça veut dire quoi, et pourquoi la laïcité, et c'est quoi la différence. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand des enfants repartent en disant « Ah, mais en fait, donc on peut croire ce qu'on veut, et donc la République, elle est pour tout le monde. » J'ai dit « Écoutez, si déjà, en partant, vous avez compris ça, moi, je suis très heureuse. » Et puis, le respect de chacun, et cette idée donc, d'éducation à la citoyenneté, elle passe par tout un travail aussi qu'on fait contre les problématiques de harcèlement.
J'allais vous poser cette dernière question.
Ouais, forcément, ça existe aussi dans les écoles de la ville d'Angers, et on travaille beaucoup dessus, notamment avec comme pilier central cette notion de respect. Respect de soi, respect du corps, respect de l'identité de l'autre, respect, j'allais dire, des différences, mais donc ça veut dire pas de harcèlement. Enfin, le respect, c'est vraiment la notion centrale qui permet d'irriguer tout le reste de ce qu'on peut travailler.
Mmh. Est-ce que vous allez vous servir de la plateforme mise en place par l'éducation nationale pour aller... où les parents vont pouvoir aller indiquer sur cette plateforme les possibles cas de harcèlement en ligne.
Vous parlez de phare.
De phare.
Oui, mais on s'en sert déjà. On s'en sert déjà quand il y a des problématiques de harcèlement, donc les signalements, ils peuvent être faits là. L'éducation nationale a formé des référents harcèlement. Nous aussi, on a formé au sein justement de ces animateurs, et c'est là encore que j'insiste, parce que c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui commencent à être expérimentés et qui peuvent avoir des temps de formation. On a travaillé sur cette question de la formation contre le harcèlement. Donc on a des adultes qui sont sensibilisés, qui sont outillés. On a travaillé aussi en lien avec le département pour tout ce qui est signalement, parce que il n'est pas rare qu'un enfant qui va être un bourreau, un agresseur, un harceleur à l'école, soit en fait une victime, parfois chez lui dans son cercle familial. Donc ils ont aussi appris à décrypter, entre guillemets, ces situations-là, et pas juste à s'arrêter à un tel m'a embêté. Donc on essaye de prendre du recul, de dézoomer, de voir quelle est la situation de l'enfant et comment on peut l'accompagner. Je salue d'ailleurs l'annonce qui avait déjà été faite l'an dernier par le précédent ministre de l'Éducation nationale, de dire que désormais c'est le harceleur qui devra changer d'école et pas l'enfant harcelé, parce que ça c'était vraiment une double peine terriblement injuste.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Caroline Feld d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers et très bonne rentrée à vous.
Merci à vous.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
On enchaîne dans le pédalo cette semaine rencontre avec le Festival des Transmusicales à Rennes, lauréat de la catégorie Démarche globale d'amélioration et de transition, évidemment dans le cadre des Bravo Festival.
Bravo les Bravo. Les trophées qui récompensent l'engagement des festivals de Bretagne et de Pays de la Loire pour la transition écologique et sociale. Contribuons à la production de festivals toujours plus durables. Vous écoutez l'émission des Bravo à la rencontre des nouvelles dynamiques d'action pour des événements plus responsables.
Merci.
Le 12 mai dernier, les rencontres transmusicales de Rennes ont été récompensées par les trophées Les Bravo, le festival rennais qui rassemble chaque année plus de 55 000 spectateurs et spectatrices, s'est démarqué grâce à sa démarche globale, transversale et partagée pour le développement durable, une démarche qu'il a amorcée dès 2005. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Xavier Payat, responsable développement durable et solidaire des transmusicales. Xavier Payat, bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce qu'on parvient à faire venir des artistes du monde entier, rassembler des milliers de personnes sur plusieurs jours, tout en ayant une organisation qui se veut soucieuse des enjeux climatiques. En bref, comment on arrive à créer des événements qui rassemblent autant, tout en étant écologique.
Nous, au Transmusical, donc, comme vous le disiez, on est engagé depuis 2005. Le parti pris, c'est vraiment de, pour l'instant en tout cas, de ne pas toucher au projet artistique qui, je le rappelle, est de proposer au plus grand nombre possible une rencontre entre des publics et des artistes qui viennent notamment des quatre coins du monde. Alors parfois on a une image des trans qui est vraiment très très sono mondiale. En fait, en gros, il y a 25% des 80-85 groupes qu'on fait jouer chaque année qui viennent de très loin, c'est-à-dire hors du continent européen. Ça fait, voilà, du coup, le reste, 75% qui vient de moins loin. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'artistes français. Mais en tout cas, c'est de pour l'instant, de pas toucher à ça et du coup, de s'intéresser aux autres impacts et de, notamment si on réfléchit à la partie carbone, même si notre engagement n'est pas que carbono-centré. Mais sur la partie carbone, la réflexion qu'on a depuis quelques années, c'est déjà de compter, de suivre, c'est-à-dire que on fait venir des artistes de loin, mais on le fait pas comme ça sans se poser de questions. On trace d'où ils viennent, comment, si c'est possible de venir avec des transports moins carbonés. Donc par exemple pour les artistes européens, s'ils peuvent venir en train, etc., on les fait venir en train. Et donc le but, c'est de travailler, et c'est ça, je pense, qui a été reconnu par les Bravos, parce que c'est une organisation globale, c'est de travailler sur la réduction des impacts négatifs ailleurs que justement sur ces transports. En fait, nous, voilà, le projet, l'essence même de ce qu'on fait, évidemment, elle est dépensière de carbone, puisque on a tous ces trajets en avion. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette tentative de baisser l'impact carbone ailleurs que ce qui fait l'essence du festival et ce qui, sans lui, on serait plus la même chose.
Alors en 2022, les transmusicales se sont distinguées par la mise en place d'une nouvelle initiative. Il s'agit de la contribution environnementale. Celle-ci vise, alors le terme n'est peut-être pas exact, hein, vous me corrigerez, mais à contrebalancer, disons, les émissions de gaz à effet de serre produites par le festival en collectant de l'argent en faveur de projets de transition écologique et sociale. Pourquoi parler de contribution et non pas de compensation?
Déjà, le terme compensé, il laisse trop croire que ça efface. Alors qu'en fait, le problème du CO2 et des autres gaz réchauffants, c'est qu'il reste très 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 longtemps dans l'atmosphère. Pourquoi contribuer? Parce que, en gros, c'est, voilà, on sait que le CO2, notamment émis par les transports des artistes et des publics, il est émis. On fait le festival, c'est comme ça. Ça nous empêche pas de faire tout ce qui est en notre mesure pour réduire cette facture CO2. Mais là, voilà, on est début décembre 2022, le festival est lancé, les avions commencent à atterrir, donc voilà, la facture CO2, elle est là. La contribution environnementale, elle a pour but de s'intéresser plutôt au futur. C'est de se dire, on contribue à un futur décarboné. Une alimentation bio et locale via du don à Terre de Liens, c'est une facture CO2 pour la souveraineté alimentaire de la France moins lourde qu'une alimentation agro-industrielle avec du soja qui vient d'autres pays, etc. Et du coup, dans le futur, grâce à des dons comme ça, on consomme moins de CO2. Nous, se contribuer, on le voit comme la dernière étape d'un triptyque qui commence d'abord par éviter et réduire.
Alors, la contribution environnementale a rapporté 17 555 euros. Ça représente moins de 30% de l'objectif initial. Pour le rappeler, le bilan carbone du festival, c'est environ 750 tonnes de CO2, ce qui représente un coût total évalué à 60 000 euros pour le festival. Donc on est un petit peu loin entre le don et l'objectif affiché, hein, de ces 60 000 euros. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer et surtout comment est-ce qu'on peut faire mieux?
Moi, j'ai envie qu'on fasse mieux, évidemment, mais c'est pas là que j'ai envie de tourner mon regard. C'est plutôt essayer d'aller vers tout l'écosystème un peu d'entreprise qui gravite autour des trans. Je pense que ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de communication et puis peut-être simplifier l'opération vraiment qui permet de donner un euro. Ce qui a le mieux marché en termes de dons, c'est le fait de pouvoir choisir de donner une partie de son reliquat cashless. Avec ça, les gens ont fait des dons de à peu près 4 euros en moyenne, ce qui est quand même assez, assez chouette.
Alors pour finir, est-ce que vous auriez un conseil à donner à d'autres festivals, d'autres personnes qui travaillent dans les festivals de Bretagne et de Pays de la Loire?
Un festival breton, je lui conseillerais vraiment de rejoindre le collectif des festivals. En fait, c'est les festivals qui n'ont pas les moyens ni le temps d'avoir un responsable de développement durable via le collectif, ils en ont un. Enfin, en tout cas, ils peuvent en avoir un. Alors, ça serait la première des choses. Et pour tout festival confondu, breton ou pas breton, c'est de se former. Si vous faites des choses, communiquez dessus. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur du greenwashing. Alors faites-le bien, évidemment, mais communiquez. Et puis peut-être nommer quelqu'un à ce poste-là. Donc, suivant la taille du festival, ça peut être quelqu'un à temps plein ou quelqu'un à temps partiel. Voilà, nommer des gens à des postes, ça permet ensuite de vraiment se dire, tiens, toi, tes objectifs, c'est ça. Et on avance, on regarde. C'est ça aussi l'amélioration continue.
C'était Xavier Paya, une interview réalisée par la radio Syllab à Rennes pour Les Bravos. Les Bravos est un projet mis en œuvre par le collectif des festivals bretons, le réseau Éco-Événements et le pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire. Une émission réalisée par la Corlab et la Frappe.
Voilà, évidemment, un reportage à retrouver sur le site de la Frappe et de la Corlab, ainsi que celui sur celui de votre radio, évidemment, radiocampusangers.com. Eh bien, écoutez, le pédalo arrive à bon port. Et oui, le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès lundi de la semaine prochaine. Lundi de la semaine prochaine, parce qu'entre-temps, c'est le week-end, pour vous présenter l'association Orange Platine, que vous pourrez retrouver d'ailleurs aux accroche-cœurs. Allez les voir, ils auront un petit bar de quoi vous régaler les papilles. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.